Bien, ça va bien tout le monde? Bonjour, bonjour. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. Je vais vous parler suite à ce que je vous disais vendredi soir. Et vous savez, dans la vie, bon, j'arrive, j'ai 59 ans, on arrive à réfléchir quand même notre parcours. Quand on regarde en arrière, on s'aperçoit qu'il y a eu ce qu'on appelle des coïncidences. Et ce n'était pas des coïncidences, c'était simplement Dieu qui arrangeait les choses. Et puis, on a suivi, c'était magnifique. Et je pense que si ça s'est passé dans le passé, eh bien, les choses se produiront la même chose dans l'avenir. Il y aura aussi des coïncidences. À nous de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Ainsi, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus paisible, moins stressé. Et puis, on est en communion avec la chose qui est en train de se produire et avec celui qui les produit. Amen. Voilà, donc j'ai eu des conseils tout au long de ma vie. Dieu m'a parlé d'une manière, tantôt d'une autre. Et certains conseils m'ont été donnés par des gens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des personnes anonymes. D'autres conseils me sont venus par l'expérience, simplement. D'autres par un ange, Uriel, qui me visite. Et il m'arrive de recevoir des fois des conseils pendant les moments de méditation. J'aime bien, dans les moments de méditation, écouter aussi, dans les moments de prière, pas seulement parler à Dieu, mais écouter aussi, prendre du temps. Et dans le sommeil aussi, Dieu peut nous parler dans le sommeil. C'est pourquoi je vous exhorte à avoir un carnet pour écrire toutes ces choses que Dieu vous donne quand vous êtes en train de lire, quand vous êtes en train de parler, avoir un petit bout de papier, puis écrire les idées quand elles vous viennent. Je crois que le plus important, si on veut avoir une vie productive avec Jésus, et on doit avoir une vie productive, Jésus attend ça. Il nous a donné des talents pour qu'on les fasse valoir. Si notre vie, elle est comme la vie de tout le monde, c'est triste. On doit avoir une vie productive. Alors, une vie, si on doit avoir une vie surnaturelle, où le surnaturel apparaît d'une façon évidente, il nous faut accepter l'idée que nous avons à étudier toute notre vie. Étudier toute notre vie. Y a une personne qui dit je sais. Hein, c'est terrible. Une personne qui dit ça, elle n'avancera plus. Elle croit tout savoir, je sais. Un disciple de Jésus doit avoir son propre esprit en éveil, être attentif. Je vous promets, j'ai écrit toutes ces choses, ce message hier soir, avant d'avoir regardé ce film que vous allez voir ce soir. C'est très étrange, c'est très bizarre comment. Pourquoi est-ce que Dieu. Voilà encore une coïncidence. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je loue ce film puis qu'il arrive là en ce moment? Parce que j'ai un truc de location, ça arrive quand ça veut. J'ai une quinzaine de films que j'ai loués et les films arrivent quand ça veut. Hein, c'est pas moi qui décide. Mais je vous promets, on pourrait penser que j'ai préparé ce message après avoir vu ce film. C'est très bizarre. Le disciple de Jésus, il doit s'exercer à reconnaître la trace du divin dans la nature. Dans la nature. Vous savez, autrefois, particulièrement en Bretagne, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont restées là, eh bien, on ne croyait pas en Dieu, en Jésus-Christ, tout ça, mais il y avait une multitude de dieux, c'était les dieux de la nature. Il y avait les elfes, il y avait les gobelins, il y avait toutes ces sortes de choses-là. Et c'était une religion, c'était une religion très établie, c'était pas rien du tout. Ça ne veut pas dire que c'était juste, mais ils avaient observé beaucoup de choses, le divin dans la nature. On doit s'habituer à voir le divin dans la nature, parce que Dieu a créé la nature. Amen. Et on doit aussi s'habituer à reconnaître la nature dans le divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on doit s'habituer à reconnaître le divin, déjà, premièrement, dans notre propre nature, et puis aussi dans la nature qui nous entoure, dans les choses qui nous entourent. Tout est divin, puisque Dieu a tout créé. Donc, tout est d'origine divine. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous, absolument tous. Dieu le fait connaître, il se fait connaître, il fait voir ses imperfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Tout ça se voit comme à l'œil nu depuis qu'il a créé le monde. Encore faut-il les considérer, encore faut-il les regarder, encore faut-il être attentif. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul dans Romains 1, 19 à 20. Reconnaître Dieu, reconnaître sa trace dans toutes vos voies, c'est ce que le sage des Proverbes enseignait. Proverbe 3, verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous connaissez le texte. Il dit que si tu le reconnais dans toutes tes voies, pas seulement dans quelques trucs, en disant, ah là, c'est Dieu qui agissait, mais là, par contre, c'était Satan. Et puis là, c'était la chair. Oh là là, quelle confusion. Quelle confusion. Croyez que Dieu dirige toutes choses. Et puis faites la part des choses, faites le tri. Dieu fait le tri. Dieu fait le tri. Et il veut que ses enfants fassent le tri aussi. Élimine certains trucs. Dieu élimine certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent, mais elles sont à éliminer. Mais comment? Comment si on n'est pas capable d'être attentif? Il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas rien, mes frères et sœurs. Ça veut dire que Dieu t'ouvrira l'intelligence pour que tu vois suffisamment loin pour éviter les embûches. Quand on roule, qu'on va de Lamblore à Paris, la nuit, c'est plutôt le contraire. En général, on vient de Paris à Lamblore, enfin, ça dépend qui. La nuit, eh ben, vous avez vos phares, ils éclairent pas loin. Et on peut se permettre de rouler assez vite, parce qu'on sait que la lumière, elle va éclairer à mesure. Et puis, on va arriver à bon port. Mais la lumière, elle n'éclaire pas de Lamblore à Paris, heureusement. Pour les pauvres gens qui habiteraient sur le chemin, ça serait terrible. Donc, vous voyez, c'est pas à pas, mais le Seigneur nous éclaire toujours ce qui est nécessaire pour qu'on puisse éviter les embûches. Ça ne veut pas dire qu'il va enlever toutes les pierres et puis qu'il n'y ait pas de problème, mais c'est qu'il va aplanir notre sentier, ça veut dire qu'il va le rendre plus véhiculable parce que nous sommes conscients de ce qu'il y a dessus. Vous voyez? Vous comprenez? Et ça, mes frères et sœurs, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, ça s'exerce, ça se développe. Et cela ne se développe pas si tu le fais ou mal, si tu le fais que pour ton intérêt personnel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens stagnent au bout de quelques temps, parce qu'une fois qu'ils ont compris le salut par la grâce, une fois qu'ils ont compris l'importance d'être baptisés, une fois qu'ils ont compris le baptême dans le Saint-Esprit, une fois qu'ils ont compris deux, trois dons spirituels, et puis qu'ils ont marché un peu dans l'église, comme ça, après ils ne savent plus quoi faire avec ça, et puis ils stagnent, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'ils développent des choses, mais pour leur intérêt personnel. L'inverse est vrai aussi, il y a des gens qui ne font que pour les autres, toujours pour les autres, et ils se négligent eux-mêmes. Ça aussi, ce n'est pas bon, c'est un déséquilibre. En tout cas, Dieu, une chose est certaine, Dieu va aiguiser cette capacité en toi d'être sensible si tu as le désir de partager ce savoir, ces expériences avec les autres. Parce que quand même, il faut l'avouer, la plupart du temps, les gens sont quand même plus égoïstes qu'altruistes. Donc, en gros, on va plutôt parler aux égoïstes qu'aux altruistes, parce qu'ils sont plutôt rares, les altruistes, qui s'occupent des autres. Paul, l'ange d'Éphèse, enseignait ces choses à Timothée. Il écrivait à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul, il avait conscience que ce qu'il enseignait entrait par l'oreille de beaucoup, mais ressortait rapidement par l'autre oreille de ces personnes nombreuses. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, ouais, il y avait beaucoup de gens, mais Paul avait discerné en Timothée quelque chose de spécial. Alors, il se choisit, donc Timothée, il se choisit cet homme. Pourquoi Timothée? Parce que Paul avait vu, il était attentif, il avait vu que Timothée était un buvard. Il prenait, il recevait. Il ne se bornait pas à écouter, mais il prenait pour pouvoir mettre en pratique ensuite. Alors, il voyait en Timothée en être capable d'enseigner la parole et de témoigner par des actes ce qu'il avait reçu de son maître, Paul. Paul était son maître. Maintenant, on dit toujours, ne vous faites pas appeler maître. Oui, on ne doit pas se faire appeler maître. Mais un maître, il est reconnu comme tel. Ce n'est pas à lui de dire, appelez-moi maître. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Osborne, c'est mon maître. Bon, vous allez dire, ah mais moi, c'est Jésus. Bon, ben, c'est que tu n'as rien compris, et puis si tu es content comme ça, ben, reste comme ça. Mais Paul était un maître. Il dit, sois mon imitateur, comme je suis moi-même de Christ. D'accord? Et nous devons faire attention qui nous inspire. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça, et on ne doit pas se faire appeler maître, ça serait stupide, ce serait de l'orgueil, mais vous devez savoir qui est votre maître, et vous devez savoir, et les autres doivent savoir si vous êtes leur maître ou pas. Bon, ce n'est pas le but de ma prédication de dire ça, mais... Donc, il voyait en Timothée cette capacité de recevoir du maître et de transmettre ensuite en tant que maître. Paul savait que la majorité, déjà à cette époque, ne serait jamais hors norme, qui serait toujours coulé dans le moule de tout le monde et puis qui suivrait dans un doux ronron. Alors, Paul écrit, Paul parle à Timothée en lui disant d'enseigner, de confier ce qu'il avait entendu de lui-même, de Paul. Il dit, voilà ce que tu as entendu de moi, dis-le à des hommes fidèles. Fidèles, fidèles. Souvenez-vous, Jésus récompensera les bons et fidèles serviteurs. Pas seulement les bons, mais il faut être bon et fidèle. T'es seulement bon, c'est déjà pas mal, hein? Mais ce n'est pas suffisant. Les bons serviteurs auront leur récompense, mais elle sera moindre parce qu'ils ne persévèrent pas dans l'enseignement des apôtres, parce qu'ils ne persévèrent pas, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne sont pas fidèles dans la réception et la diffusion du savoir divin. Donc, ils sont bons, mais ils ne sont pas fidèles. Vous voyez? Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « bon et fidèle serviteur ». Il aurait pu dire « ah, bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître ». Non, non, non. Bon et fidèle, s'il a dit ça, c'est pour quelque chose, il faut y réfléchir. Il ne dit pas pour rigoler les mots qu'il dit. Tout on doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Tu trignes sur les mots. Oui monsieur, je trignes sur les mots. Mais c'est important quand c'est Jésus qui les dit. Amen. Timothée entendait Paul et il percevait même des choses importantes dans les silences de Paul. Paul, il percevait la puissance de Dieu se manifestant sans cesse. Sans cesse. Il n'y avait pas besoin d'avoir une sensation pour se rendre compte que Dieu était présent. Il n'y avait pas besoin d'avoir un miracle extraordinaire pour savoir que Dieu était présent. Il percevait la présence et la puissance de Dieu sans cesse dans toute sa vie. Et il la voyait inhérente à toute chose et il avait le pouvoir de la rendre perceptible aux autres, pas à tous, à ceux qui voulaient bien écouter, à ceux qui voulaient bien être attentifs. Et Timothée, il avait discerné que Timothée était de sa trempe. Paul le reconnaissait. Alors, là, par exemple, on arrive à l'été. Et je voudrais vous demander de faire un exercice, une de ces nuits, il faudra choisir une belle nuit, je ne sais pas, le 22 juin, si ce serait une belle nuit, mais vous savez qu'on change de lune à ce moment-là, à 21h et quelques, c'est là qu'on doit fermer les portes au nom de Jésus. Vous regarderez sur Internet pour avoir, Richie nous a mis l'heure précise. Et s'il fait beau, je vous exhorterai à sortir et d'aller dans un endroit tranquille, et puis de regarder le ciel, mais pas de regarder le ciel en disant « Oh, c'est beau !» Non, non, regardez le ciel et laissez votre âme se remplir d'un immense respect face à l'insondable obscurité de ce ciel de nuit. J'aimerais que vous fassiez cet exercice. Que ça dure un peu de temps. Ça vous prête. On a l'habitude d'être toujours allé vite. Il faut prendre votre temps et vous sentir tout petit, mais en même temps, tout d'un coup, vous allez vous sentir très grand. Il faut que vous arriviez à ça. D'abord, vous allez vous sentir tout petit, humble, et tout à coup, vous allez vous sentir très grand parce que vous allez vous sentir faisant partie de tout ça. Les choses ne s'arrêtent pas à leur contour. C'est ce qui entoure les choses qui s'arrête au contour des choses. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne fait que fusionner. Il faut que vous compreniez ça. Vous voyez, le prince de ce monde et son armée, ils se plaisent à nous chahuter, à nous gâcher notre vie, à nous empêcher d'être remplis du Saint-Esprit. À perdre notre énergie, à se vider. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi. À peine vous êtes avec eux, ils vous bouffent votre énergie. Vous n'avez jamais remarqué ça? Faites attention, faites attention, faites attention. Mais vous devez développer en vous la puissance du calme, de la lucidité, quand tout semble n'être chaos et pompe à énergie. Et puis, j'y reviens encore, ayez l'humilité de dire « je ne sais pas si vous ne savez pas ». Ne jouez pas au super spirituel en sortant des phrases creuses qui ne veulent rien dire, et surtout avec des mots qui ne sont pas adéquats. Parce que le pouvoir de transformation, mes frères et sœurs, ne peut pas opérer sur une personne qui est bloquée dans ses certitudes. Il faut qu'un chrétien soit toujours l'esprit éveillé. Dans le monde, on va dire curieux, éveillé. Vous savez, un disciple de Jésus, il doit être tourné vers Dieu, vers les autres. Il doit s'occuper, il doit avoir compassion. Le mot compassion, ça ne veut pas dire pitié. Compassion, c'est la compassion. Quelqu'un qui a de la compassion, il se met à l'œuvre pour aider. Alors, un disciple de Jésus, il se doit d'être compatissant avec lui et avec les autres. Il se doit et il doit à tous de savoir quand intervenir. Parce qu'il y a des fois, ce n'est pas bon. Il faut laisser les gens faire leur chemin aussi. Il y a des moments, ce n'est pas bon, il faut laisser. Et ça, c'est la sagesse. Et la sagesse, ça ne s'invente pas. Ça s'apprend, c'est petit à petit. Mes frères et sœurs, heureusement que les miracles n'arrivent pas facilement. Parce que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un cœur pur. Si ces gens-là pouvaient en faire des miracles, eh bien, je vous assure, ça ne serait pas forcément bénéfique. Et heureusement qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire des miracles. Et nous, en son nom, si nous sommes alignés sur lui. Dieu a rendu tout ça très complexe. Ça me fait penser à un moteur de voiture. Il y en a pour certains, un moteur de voiture, c'est rien du tout. Ils ouvrent le capot, ils comprennent tout. Moi, pour moi, c'est un sac de nœuds. Je me dis, celui qui a inventé le moteur de voiture, c'est un vicieux. Parce que c'est incompréhensible pour moi. C'est un autre monde. C'est la planète Mars. J'y comprends rien de tous ces machins. Puis alors, on m'explique des fois. Mais ça me dégoûte tellement que mon esprit s'évade et je pense à autre chose. Tiens, je préfère penser au football, c'est pour vous dire. Hein? C'est grave. Eh bien, je crois que c'est très bien comme ça. Dieu aussi, il a créé, il a tout créé d'une façon, c'est très complexe, c'est jamais simple. On ne peut pas avoir une... Bien sûr, on peut avoir une foi simple. Moi, ça m'énerve. Quand j'entends les gens qui disent « Ah, mais c'est normal en Afrique, vous avez beaucoup de miracles parce qu'ils sont tellement simples. » Ça a l'air de dire « Ils sont bêtes. » Non, ils sont plus près de la nature. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ils sont plus naturels. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas qu'ils sont simples. Ils sont plus près de la nature. Nous, on est complètement dénaturés. Quand je dis « nous », je dis en gros en Europe, enfin dans nos pays civilisés. Il faudra que la prochaine fois, j'ai le courage de dire à la personne « Non, ils ne sont pas simples, non, ils ne sont pas bêtes, ils sont simplement moins dégénérés que vous, c'est tout. » Il faudra que j'ai le culot de le dire une fois, mais bon, je le dis déjà sur Internet, c'est pas mal. pardon. Dieu a rendu tout ça complexe afin que seuls ceux qui ont un cœur purifié par le sang de Jésus et qui en ont conscience puissent manifester le pouvoir des neuf dons. Vous savez, Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort pour tout le monde. Son sang a coulé pour tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui en ont conscience qui seront sauvés. Ceux qui en ont conscience, qui y croient. Mais vous avez qui croient, mais qui n'ont pas conscience. C'est-à-dire, au jour le jour, des jours ils sentent bien, des jours ils ne sentent pas bien, des jours ils sentent sale, des jours ils ne sentent pas très spirituel, ils ne sont pas bien. Non. Ayez conscience que c'est un fait accompli pour vous. Vous êtes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Les chrétiens ignorants aiment l'ignorance. Ils aiment l'ignorance. Parce que l'ignorance les protège. En tant qu'ignorants, ils ne vivent que ce que les gens du monde vivent, c'est-à-dire qu'ils ont des points de référence palpables.
Un chou, c'est un chou.
Et voilà. Mais pas de miracle dans leurs affaires. Pas de surnaturel dans leurs affaires. Ils ont des explications pour tout. Ils croient tout comprendre. Ils expliquent tout. Ils méprisent la connaissance et ils se fient à d'autres valeurs que nous. Voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Non, pas les mêmes valeurs. Et mes frères et sœurs, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il faut laisser faire, il ne faut pas... Il faut laisser, c'est bien comme ça. Paul, il avait vu Timothée. Et il y a encore aujourd'hui des Timothées. Pour les Timothées, c'est différent des autres. Ce sont des esprits supérieurs et la valeur de ce qu'ils sont n'est pas mesurable humainement. Bien sûr, on peut reconnaître l'arbre à son fruit. On voit Osborne, on dit bon ben voilà, il a plus besoin de faire ses preuves. On voit là, on a son fruit, voilà. Mais celui qui a le regard éteint quant aux choses de l'esprit, il jugera mal le fruit et il accusera même l'arbre. Et c'est comme ça. Il dit ça vient du diable. Et voilà, ils ont fait ça. Les religieux, c'est surtout les religieux, ceux qui ont un esprit religieux, c'est les pires. Ils ont fait ça avec les prophètes, ils l'ont fait à Jésus et ils continuent à le faire. On en est averti, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Maintenant, un disciple de Jésus ne vit pas que dans le monde surnaturel, parce qu'alors là aussi, c'est un déséquilibre, une espèce de flipper surnaturel. Non. Un disciple de Jésus, il doit être capable de garder la maîtrise de soi, il doit être capable d'être maître de son destin, hein, je vous ai dit. Un chrétien ne prédit pas l'avenir, mais il le construit. D'accord ? Il doit être maître de son destin. Il doit être capable de créer son espace sacré. Cet espace sacré, c'est vous êtes le temple du Saint-Esprit. là où vous êtes, c'est un espace sacré. Vous devez le créer, cela, en avoir conscience. Vous devez respecter les autres. Un disciple de Jésus, il doit prendre soin de lui et de sa famille. Il doit travailler efficacement. Il doit relever les défis sans perdre confiance en lui quand ça rate. Il doit vivre sur la terre de façon responsable. Il doit savoir prendre la parole autant qu'écouter. Même Camélia, elle disait, Dieu nous a créé qu'une bouche et deux oreilles. C'est la preuve qu'on doit parler une fois moins qu'écouter. Puisqu'on a deux oreilles, on doit écouter deux fois plus que parler. C'était joli comme idée. On doit être capable de prendre la parole, mais aussi d'écouter. On doit s'exercer de façon à faire preuve de gentillesse. C'est un exercice, ce n'est pas naturel. L'homme déchu, on a plus tendance à faire des choses pas gentilles. Il doit savoir gérer un budget, son budget principalement. Gérer celui des autres, c'est bien gentil, mais... On dit toujours, c'est le cordonnier le moins bien chaussé. Eh bien non, ça c'est un cordon, un proverbe du monde, c'est pas un proverbe chrétien. Aider, il doit être capable d'aider ceux qui sont dans le besoin, réconforter les malheureux, respecter les consignes, faire face aux difficultés, à ce qui arrive normalement dans la vie, et faire taire son ego. Faire taire son ego. Il doit savoir agir seul, mais il doit aussi savoir agir en groupe. Il ne doit pas être asocial. Il doit savoir éviter les conflits avec les autres disciples, principalement. Il doit cultiver un esprit généreux. Il doit vivre en brave et souffrir avec élégance. Vous voyez, ces choses, elles devraient être vécues dans le monde. Ce n'est pas incompatible avec une vie sociale normale, belle. Ça doit être vécu et c'est même vécu par des incrédules notoires. Alors, à plus forte raison, elles doivent être vécues par un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on a été éduqué par des pécores qu'on doit se dire « je serai pécor toute ma vie ». Ce n'est pas parce qu'on a été éduqué par des chiens qu'on doit rester des chiens toute notre vie. On doit s'exercer pour devenir différent. On peut vivre ainsi... Toutes ces choses que je viens de vous dire, sans croire forcément à la virginité de la Vierge, Marie. On peut vivre ainsi sans croire à la résurrection de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. On n'a pas à prier pour pouvoir vivre ainsi, on a à s'exercer jour après jour, et dans cet exercice, nous, on a un avantage, Dieu est avec nous. On a plus de facilité à vivre ces choses si on sait écouter Dieu, mais surtout si on se sait écouter de Dieu. Si on se sait vu par Dieu, beaucoup de gens se savent vus par Dieu et ils ont peur. Alors je rajoute, on a plus de facilité à vivre ces choses si on se sait aimé de Dieu, et vu de Dieu, et écouté de Dieu. Un disciple de Jésus, il se doit, et il doit aux autres, d'être le meilleur à l'image du Maître, et c'est ça la norme. La norme, c'est ça. C'est d'être un esprit supérieur, d'être comme le Maître. Alors, se connaître soi-même, avoir conscience de sa propre faiblesse et de quel esprit nous sommes animés, c'est très important. Et cette connaissance, ça vient avec le temps, ça vient avec les lectures. Pardon, certains qui ne veulent pas que je lise. Ça vient avec le temps, ça vient avec les lectures, je le mets en deuxième position, ça vient avec l'expérience, avec les rencontres, avec les réflexions, la réflexion. Dépourvu de ses connaissances, mes frères et sœurs, un chrétien, c'est un bricoleur dans la vigne du Seigneur. Un bricoleur. Maintenant, une chose, je vous parlais des mots. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mentor ? Un mentor, c'est un guide attentif et expérimenté. C'est le dictionnaire qui le dit. Et voilà ce que doit devenir un chrétien. Il doit être un mentor. Il commencera par naître de nouveau, Jean 3:3. Ensuite, il deviendra un disciple, Luc 14:33. Ensuite, il va devenir un disciple, Luc 6:40. Luc 6:40, c'est « Tout disciple accompli sera comme son maître ». D'abord, il faut naître de nouveau. On est dans une réunion, on entend l'évangile, on se donne à Jésus, et puis hop, on est né de nouveau. Et puis après, on devient un disciple. On vend tous ses biens, on met comme acte 2, acte 4, tout ça. Et puis ensuite, un disciple accompli, c'est-à-dire il ne suffit pas de vendre tous ses biens, mais encore faut-il après vivre toutes les choses que Jésus ordonne. Ne vous faites pas appeler maître, mais soyez les maîtres. Ayez conscience d'être un maître, un menteur. Un mentor, c'est donc un personnage qui est un guide attentif et expérimenté. Mais vous savez pourquoi ? Mentor, qu'est-ce que c'est ce mot mentor ? Eh bien, mentor, c'était le nom du conseiller d'Ulysse dans la mythologie grecque, dans l'Odyssée d'Homère. C'était le conseiller d'Ulysse. Et depuis, son nom, mentor, est synonyme de conseiller, de fidèle, d'enseignant, de tuteur. Voilà. Alors maintenant, on dit un mentor, à tout bout de champ. Voilà. Un disciple, il devient comme son maître, et Jésus, lui, il était quoi? Un conseiller, un sage, un fidèle, un enseignant. Un enseignant. Enlevez l'enseignement de Jésus. Alors, si Jésus était comme ça, vous devez être comme ça. C'est ce que vous devez être. Vous avez un chemin pour arriver à avoir conscience d'être cela, d'être un mentor. Mais vous l'êtes, mais vous devez le devenir en acte, en pratique. Alors, comme il y a des étapes, on commence par naître de nouveau, après on devient un disciple, après on devient un disciple accompli, ben, une fois qu'on est disciple accompli, une fois qu'on est disciple, mettons, eh bien, pour arriver à être un enseignant, il faut d'abord commencer par ouvrir sa grande gueule, puis témoigner. Combien ont témoigné cette semaine de l'amour de Jésus pour la vie des gens qu'ils ont rencontrés? Voilà. Quelques-uns. Témoigner.
Ah, mais moi, je préfère témoigner par mes actes.
Oui. Laissez ça aux catholiques, s'il vous plaît. Jésus a dit la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole. Amen. Vous devez témoigner, bien sûr, par vos actes. Parce que si vous témoignez en parole, puis qu'à côté, vous faites le contraire. Mais témoignez en parole. Parlez de l'amour de Jésus-Christ. Sinon, vous ne deviendrez jamais un mentor. Et vous, c'est ce que vous devez être. Vous avez compris? C'est ce que vous devez être. En vous enseignant ces choses, depuis toutes ces années, j'ai été votre mentor, en fait. Alors, j'attends quoi de vous? Votre attention. Que vous preniez soin de vous-même et que vous preniez soin des autres, que vous étudiez, que vous appreniez ce que je vous enseigne, que vous ne vous borniez pas à l'écouter, mais que vous commenciez à le vivre. Et si vous entrez dans ce processus de disciple, alors vous serez le laboureur dont Paul parle à Timothée. On va lire ce qu'il dit au sujet de ce laboureur. 2 Timothée 2, 6, 7. 2 Timothée 2, 6, 7. Un laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. D'accord? Et puis ensuite, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ce n'est pas écrit, le Seigneur te donnera toute l'intelligence en toutes choses, alors tu comprendras ce que je dis. Non, c'est comprends ce que je dis. Et alors? D'accord? Je relis, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il y en a beaucoup qui disent amen, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Vous voyez, le Seigneur ne donne l'intelligence spirituelle qu'à ceux qui comprennent. Alors on va me dire, ben mon Dieu, alors comment c'est compliqué? Je comprends déjà plus là. Le Seigneur ne donne l'intelligence spirituelle qu'à ceux qui comprennent. Dans le premier sens du mot. Michel, tu pinailles sur les mots. Oui, monsieur, je pinaille sur les mots. Le premier sens du mot comprendre, c'est concevoir. Concevoir. Et concevoir, ça vient du latin concipere, qui signifie avant tout prendre. Voilà pourquoi comprendre. Prendre. Alors je répète le verset. Dieu donne l'intelligence, il ne donne l'intelligence qu'à ceux qui prennent. N'attendez pas qu'on vous le serve, qu'on vous l'explique, qu'on vous le mâche, qu'on vous le digère. C'est à vous de le prendre. Qui prennent quoi? Qui prennent Dieu au sérieux. Qui prennent leur nouvelle identité au sérieux. Qui prennent leur place dans le corps de Christ au sérieux. Qui prennent. Mais comprendre, ça signifie aussi inclure. Mettre dans un tout. Par exemple, on comprend vite quand on parle d'argent. Hein? On dira par exemple... Le prix indiqué comprend toutes les taxes. Ça inclut, d'accord? Le prix indiqué inclut toutes les taxes. Paul dit, comprends ce que je dis, inclus ce que je dis dans un tout, c'est-à-dire en Dieu. Dieu est tout. Car le Seigneur te donnera l'intelligence de toutes choses. Alors, que faire avec les enseignements? Les écouter, les comprendre, les inclure en Dieu, c'est-à-dire comme étant d'origine divine. Voilà pourquoi traditionnellement on dit on va écouter la parole de Dieu. On ne dit pas on va écouter le pasteur nous raconter des histoires. On doit les écouter, les enseignements, les comprendre, c'est-à-dire les inclure en Dieu, c'est-à-dire les comme étant d'origine divine, n'étant pas en dehors de Dieu, les respectant comme tels, les prendre pour tels afin de les donner pour tels aux autres. C'est pas rien ce qu'on a donné aux autres. Et quiconque aura honte de moi, j'aurai honte de lui quand devant mon Père. Alors voilà le cycle que suit un disciple jusqu'à son accomplissement de disciple, c'est-à-dire de maître. L'accomplissement du disciple, c'est être un maître, un mentor. Mes frères et sœurs, on ne joue pas aux chrétiens. On n'est pas ici pour jouer aux chrétiens. Nous sommes des gens en cours d'initiation, comme Timothée, ou alors nous sommes des initiés, comme Enoch. En tout cas, on doit arriver à cette stature d'Enoch, parce que lui seul a été enlevé. Lui seul a été enlevé. Nous devons être des disciples tels que Paul les formait, à l'image de Timothée. Des êtres nouveaux, des êtres très différents des mondains, des moldus, des habitants de la terre, des gens qui n'ont pas de pouvoir, sinon celui de la chair. Jésus a garanti son action surnaturelle pour confirmer que ce que nous disons est vrai. Marc 16, 20. Mais encore faut-il enseigner, parler, témoigner, prêcher, prophétiser. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il confirme? Il confirme la parole, il ne confirme pas les actions. Il confirme la parole, c'est-à-dire il accompagnait ce que les disciples prêchaient, leur témoignage, leur parole, leur prophétie, par des miracles qui les accompagnaient. Marc 16, 20. Non, mais il n'y a pas de miracle. Tu es tout seul dans ta chambre et tu pries, puis tu crois que tu vas avoir des miracles. Mais les miracles, ils sont là pour confirmer que ce qui est dit est vrai. Alors, vous avez des tas de pasteurs qui disent des choses vraies et Dieu ne confirme pas ce qu'il a dit. Pourquoi? Eh bien, Dieu m'a dit pourquoi. Je vais vous le dire. C'est parce que ce qu'ils disent de vrai, tout le monde le sait déjà. C'est fort, ça. C'est parce que ce qu'ils disent de vrai, tout le monde le sait déjà. Jésus est vivant, tout le monde le sait. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, tout le monde le sait. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu confirme les choses révélées, les choses vraies, révélées, nouvelles, pas nouvelles, mais que l'Église a oubliées. Et c'est pourquoi Dieu fait les miracles. Regardez T.L. Osborne. Regardez William Branham, ce n'est pas des pasteurs qui rabâchent toujours l'histoire de Bartimée. Ils ont apporté au peuple de Dieu des révélations qui sont écrites mais qui ont été oubliées par l'Église. Et voilà pourquoi ils sont accompagnés par des prodiges et des miracles. Et tous ceux qui sont accompagnés par des prodiges et des miracles sont des gens qui apportent quelque chose de nouveau dans le corps de Christ. Et Dieu confirme sa parole. Nouveau dans le monde. Et Dieu confirme sa parole. Mais il confirme sa parole révélée. Pas cette parole que tout le monde connaît déjà, ces banalités. « Faut être gentil !» Tu n'as pas besoin de confirmer ça. « Faut être honnête, il faut payer ses impôts. Ne devez rien à personne. » Tout le monde le sait. Ça, tu n'as pas besoin de confirmer ça, vous comprenez? J'espère que c'est clair. Pour moi, c'est hyper clair. Donc, encore faut-il enseigner, parler, témoigner, prêcher, prophétiser, bref, exercer notre ministère, manifester notre ministère, notre fonction, c'est ça, un ministère c'est une fonction, notre charge de ministre. On va lire 2 Corinthiens 5, 16, 18. 2 Corinthiens 5, 16, 18. Oh, c'est Bible neuve. On a à peine à tourner les pages. 2 Corinthiens 5, 16, 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, c'est-à-dire Pierre et tous ces gens, ils avaient connu Jésus selon la chair, il avait vu manger, dormir, et voilà, ils connaissaient selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est énorme tout ça. C'est énorme tout ça. Comment vous connaissez-vous? Toujours, je disais le deuxième point, il faut se connaître comme Dieu nous connaît. Comment vous connaissez-vous? Comment vous regardez-vous? Avec les yeux de la chair? Oh, je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis bête? Mon Dieu, ce que je peux être bête. Alors là, vous vous regardez avec la chair. Oh, ce que je suis maigre. Oh, ce que je suis gros. Oh, ce que je suis noir. Oh, ce que je suis blanc. Oh là là. J'aimerais bien être noir. Puis les noirs, ils disent, j'aimerais bien être blanc. Oh là 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 là. Si seulement j'avais pas ce problème, ça serait parfait dans ma vie. Ou est-ce que vous vous regardez avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire comme Dieu vous regarde, purifié par le sang de Jésus-Christ? Et les gens de l'Église de Dieu, comment vous les regardez? Avec les yeux de la chair? En tout cas, ce frère-là, à lui, il faut vraiment rien dire parce qu'il va tout répéter aux autres. Hein? Et puis celle-là, elle a toujours la bouche ouverte. Mais par contre, pour bouger ses mains, alors on peut toujours compter. Là, vous regardez avec la chair. Où est-ce que vous les regardez avec l'esprit? Si vous ne les connaissez pas selon l'esprit, leurs défauts vous apparaissent. Vous avez des apparitions. Des apparitions qui n'apparaissent même pas à Dieu. Vous avez l'apparition de la chair. Mais sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas spirituel quand vous avez ces apparitions-là. C'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Oh, mais je vois quand même bien ce qu'il y a là. Non, arrête. Tu n'es pas spirituel. Arrête de voir tes frères et sœurs comme ça. La Bible dit que tu ne dois pas juger. Tu ne juges pas. Change de regard. Connais ton frère et ta sœur par l'Esprit de Christ. Et les gens du monde, comment vous les connaissez? Par l'Esprit? Est-ce que vous discernez quel esprit les anime afin de pouvoir les conduire à la lumière? Ou est-ce que vous dites « Oh, mais celui-là, il ne comprendra jamais rien. » Parce que, mais il est bête. Mais s'il est bête. On n'a jamais vu quelqu'un aussi bête que ça. Il est bouche à l'aimerie, celui-là, ne comprend rien du tout. Mais il est dur. Mais est-ce que les gens sont durs dans cette région? Ben là, vous regardez avec la chair. Non, discernez l'esprit. Et puis, au nom de Jésus-Christ, chasser ce mauvais esprit de dureté ou de bêtise, et puis, ensuite, libérés de tout cela, les gens pourront entendre le témoignage, et alors ils seront devant leurs responsabilités, et ils seront jugés coupables s'ils nous refusent d'entendre. Paul le dit, nous ne connaissons, nous ne regardons, nous ne jugeons personne selon la chair. Personne. Nous ne jugeons, nous ne regardons, nous ne voyons personne selon les critères de la chair. Et surtout, pas les frères et sœurs qui sont des nouvelles créations, on ne les regarde pas comme ça. Alors vous voyez que c'est un exercice, parce que ce n'est pas inné ça. Hein? Ça fait partie de notre nouvelle naissance. Ah oui, moi je veux bien croire que toutes choses sont nouvelles dans ma vie, mais pour la sœur, il y a encore du boulot à faire. Non. Elle est une nouvelle créature, mais elle n'est peut-être pas encore Enoch, elle est peut-être seulement Timothée, et puis elle n'est peut-être même pas encore Timothée, mais en tout cas elle écoute. Elle fait partie de cette foule qui écoute, mais elle est là puis elle écoute. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il est là, puis il écoute. Il n'est peut-être pas Timothée, il ne s'est peut-être pas encore vraiment réveillé. Mais ça va venir. Priez plutôt que de dire... En tout cas, je ne dirai rien, mais... Si nous avons ce regard, cet œil de l'esprit, alors nous ne serons pas des bricoleurs, nous serons des ministres dans le royaume, vraiment. Avec le ministère de la réconciliation, réconciliant les uns et les autres avec Dieu. Amen. C'est ça, c'est exactement ce que nous venons de lire. C'est rien que ça, c'est encore plus que ça, mais en tout cas, c'est ça que nous venons de lire. Vous voyez, il y a du chemin à parcourir, mes frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous décourager, parce que moi-même, je pourrais être découragé, mais on n'est pas là pour se décourager, mais on est là pour s'instruire, pour apprendre, afin de pouvoir aller vivre une vie, alléluia, une vie qui glorifie Dieu. Si Dieu nous dit ces choses aujourd'hui, c'est qu'il veut agir en nous par son esprit, il veut faire quelque chose, il nous trouve dignes de pouvoir faire quelque chose en vue de sa gloire. Alors, il veut nous rendre capables. Laissons-nous faire, soyons soumis. Et tout finira autour d'une grande table avec du vin nouveau, la table du repas des noces. Et vous savez, Jésus ne s'unira pas par mariage avec une épouse indigne. C'est pourquoi faisons tout pour être ce que Jésus attend de nous. Et ça fait partie du programme. Ce que je vous ai dit là ce matin, ça fait partie du programme. Alors réjouissons-nous, ne nous disons pas « Oh bon, ben c'est foutu alors. Oh, ben, alors là maintenant. Oh ben si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Ah, ben si c'est ça, alors moi je pensais que c'était tu lèves ta main, tu te fais plonger dans l'eau, puis tu as la paix, la joie, le bonheur. Moi je croyais ça quand j'avais 18 ans. J'ai cru ça 2 mois. Puis au bout de 2 mois, j'ai eu tellement la preuve que c'est pas ça que je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et puis, celui qui cherche, il trouve. Amen. Alors mes frères et sœurs, cherchez encore, cherchez encore. Et puis, vous savez, quand vous aurez trouvé même en arrivant à être comme le prophète, à avoir 200 visions par jour, à avoir 100% de résultats dans vos prières pour les malades et des choses comme ça, eh bien, vous en arriverez encore à vous dire, mon Dieu, je suis vraiment indigne encore, parce qu'on trouvera toujours quelque chose à parfaire, toujours quelque chose à améliorer. Et heureusement, il n'y a que Jésus qui est parfait. Alors, ne vous découragez pas, mais allez de l'avant dans la paix du Seigneur. Amen. Les musiciens, approchez-vous. Que Dieu soit béni.